Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré et Perico Légas, avec Pierre-Edouard Magnan et Laurent Dandrieux avec vous également au 32-16 pour réagir à notre prochain débat. Les mineurs privés désormais de trottinettes électriques en libre service à Paris et dans d'autres grandes villes. Faut-il aller encore plus loin et interdire ces engins pour tout le monde? On attend votre avis également sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 13h50, le journal décalé de Paul Lassen. Et oui, on est vendredi. Paul qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale. À 14h, un Français sur quatre serait prêt à manger de la pizza à Noël. Est-ce que c'est un sacrilège ou au contraire un symbole de modernité? Appelez-nous au 3216 et dites-nous, tiens, ce que vous comptez manger au réveillon, et puis si vous pourriez vous laisser tenter par une pizza ou une raclette, pourquoi pas. 14h30, RMC s'engage pour vous. On va revenir sur le cas de Johan. Je ne sais pas si vous en souvenez, cet auditeur dont on avait usurpé l'identité et qui avait reçu plusieurs amendes de la SNCF. Eh bien, on a du nouveau dans ce dossier, et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC et on va poursuivre Estelle Midi avec l'interdiction du jour. C'est celle de la mairie de Paris qui interdit désormais aux mineurs d'utiliser des trottinettes électriques en libre service. Pour utiliser ces engins, il faudra désormais montrer une carte d'identité prouvant que vous avez plus de 18 ans. Pourquoi cette mesure, Rémi?
Mais parce que le nombre d'accidents de trottinettes électriques explose en France. Rien que dans la capitale, la préfecture de police de Paris dénombre 371 accidents d'engins de déplacement personnel, essentiellement trottinettes électriques, sur les 10 premiers mois de cette année 2022, contre 269 sur la même période de 2021. Ça fait une hausse de près de 38%. Le nombre de morts augmente également autant que l'explosion de la pratique. Depuis le début de l'année, 3 personnes ont perdu la vie à Paris. Dernière en date, un conducteur de trottinette électrique tué il y a une semaine, boulevard des Italiens, dans le 9e arrondissement de la capitale. Et puis évidemment, il n'y a pas que Paris, toute la France est concernée, comme Lyon, avec ce drame qui a marqué l'opinion. C'était en août dernier. Iris, 15 ans, et son petit ami Warren, 17 ans, tués ensemble, fauchés par une ambulance alors qu'ils circulaient sur la même trottinette qu'ils venaient de louer en libre service dans un couloir réservé aux bus et aux deux roues. Dans cette affaire, l'ambulancier a été mis en examen pour homicide involontaire par imprudence. Mais dans les trois quarts des cas de ces accidents impliquant des trottinettes, eh bien ce sont les utilisateurs de ces trottinettes qui sont responsables.
Alors, est-ce qu'il faut aller encore plus loin sur les trottinettes et interdire tout bonnement ces engins, Laurent Dandrieux?
Moi, je suis assez rarement partisan de l'interdiction totale des... Je pense qu'il vaut mieux essayer de réguler. Quand vous êtes conducteur automobile à Paris ou ailleurs, vous savez que vous pouvez pas faire n'importe quoi, parce que si vous faites n'importe quoi, vous allez prendre cher.
Il y a des travaux partout, donc vous pouvez pas aller vite.
Ouais, mais après, même en dehors de ça, vous allez prendre cher si vous faites une grosse imprudence. Et donc, je pense que de la même façon qu'on a discipliné les conducteurs automobiles par les sanctions, je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire la même chose avec les trottinettes. Il y a pas de raison. Mais probablement aujourd'hui il y a une sorte de sentiment d'impunité qui fait que on fait absolument n'importe quoi et que c'est open bar. Après, je pense que le signal de l'interdiction aux mineurs est un bon signal, parce que justement c'est ce signe.
Enfin, tu prends la carte d'identité des parents et tu prends
le signal. Mais après, c'est toujours les interdictions, elles peuvent toujours être contournées. C'est toujours possible. Mais en tout cas, ça pose un signal. Le fait aussi qu'on va être, elles vont être immatriculées aussi, ce qui va permettre de retrouver beaucoup plus facilement les auteurs d'infractions. Mais non seulement il faut les retrouver, mais il faut vraiment les taper très fort, quoi. Voilà. Moi, je suis plutôt partisan de ça.
Justement, est-ce qu'il faut créer une police des mobilités douces, Pierre-Edouard Magnan, pour légiférer un peu sur les trottinettes? On sait que dans les grandes villes, c'est un fléau entre ceux qui roulent à deux sur les trottinettes, ceux qui sont avec leur casque dans les oreilles et qui grillent les feux. Et puis les trottinettes laissées n'importe comment sur les trottoirs, c'est un enfer, quoi.
Rappelez-vous tout ce que l'on pouvait entendre des vélos il y a 30 ou 40 ans quand ils faisaient leur arrivée dans les villes à une époque où c'était encore un peu, aujourd'hui, ça paraît presque normal de voir des vélos.
C'est une catastrophe.
C'est autre chose. En plus, vous avez des phénomènes où maintenant les vélos se conduisent avec les piétons exactement comme les voitures se conduisent avec eux. Quand on les croise, ils sont sur les voies et ils nous regardent comme vraiment les piétons les fait chier. Et ça m'amuse parce que, en fait, finalement, les conducteurs de vélos sont en train de devenir des conducteurs de voitures. Je sais pas si c'est bien, mais c'est assez amusant en termes d'évolution sociologique. Cela dit, voilà, une fois n'est pas coutume, mais je serais plutôt d'accord avec mon voisin de droite. sur le fait que, d'abord, je reste convaincu, dans genre de situation, interdire ne fonctionne jamais, etc., assez vain.
Bah, au moins, c'est
donc,
simple.
Après, oui, c'est simple, mais c'est vain.
C'est trop simple.
Quand, si on veut éviter l'alcoolisme, on fait la prohibition, ça n'a jamais marché. C'était simple.
Oui, enfin, on buvait moins d'alcool à l'époque de la
prohibition. Le permis de conduire, c'est 18 ans. Donc voilà.
Pas le vélo. On peut,
non, mais d'accord, mais alors, l'interdiction de conduire à 17 ans, c'est une interdiction.
Il y a la question de la limite, il y a la question de l'immatriculation, il y a la question du casque, qui d'ailleurs n'est toujours pas obligatoire au vélo. Je tiens à le dire quand même, c'est pas obligatoire, même à vélo. Le casque devrait être obligatoire. On pourrait effectivement être un âge limite, ou en tout cas de dire que si vous êtes mineur de 15 à 18 ans, vous devez forcément être, enfin, il doit y avoir avec vous finalement un adulte.
Non, mais là, c'est interdit, hein. Donc le premier règle. Alors,
oui, mais sauf que ça ne résistera pas à l'épreuve des faits, que de toute façon, si un mineur se tue, ce sera un drame, même si, ah oui, mais c'était interdit, il n'avait pas le droit. D'ailleurs, si c'est à cause d'un automobilisme, même s'il n'avait pas le droit, le mineur, d'être sur une trottinette, évidemment, c'est l'automobiliste qui se rend
compte.
Je veux dire, c'est un renvoi. Organisons les choses. Le brevet de sécurité routière qui devrait être passé par tous les élèves dans ce pays devrait évidemment aujourd'hui, mais comme d'habitude, la loi s'adapte toujours en retard. Donc, on a commencé par comment je fais un piéton avec une voiture. Puis, quand tout le monde faisait du vélo, on va peut-être commencer à leur faire faire un vélo. Aujourd'hui, il faut aussi évidemment descendre sur la trottinette. Et ce sera peut-être, moi, le truc qui me fait le plus peur, là, vous savez, les roues, comment ça s'appelle, là, on est debout sur une roue.
Gyropode.
Gyropode. Oui. Bah, quand je vois ça, déjà, moi, je tombe pour eux.
Vous en voyez beaucoup, vous?
Non, mais c'est flippant.
Disons, dans 10 ans, j'en sais rien. Peut-être que ça va être un effet de mode. En même temps, les débuts de la trottinette, enfin, d'abord, la trottinette, c'est très vieux. Trottinette électrique dans le milieu urbain, c'est plus récent. Oui, quand je vois les gyropodes, moi, j'ai l'impression que je vais tomber à leur place, tellement je sais pas comment ils tiennent là-dessus. Bon, très bien. Mais, à un moment, là, il faut qu'on adapte. Et sur la police, de toute façon, les polices municipales sont normalement là pour ça. Enfin, elles doivent être là pour faire respecter les règles de vie du quotidien. Ils sont pas là pour attraper des braqueurs ou des dealers.
Bah, s'ils peuvent contre, le faire, on ira pas contre non plus.
Bah, oui, mais ce que je veux dire, c'est pas leur mission première. Ils sont avant tout là pour la bonne harmonie de la vie quotidienne des Français.
C'est un fléau pour vous, les trottinettes, Perico?
Alors, c'est dommage, c'est un fléau. Que droite et gauche, j'ai pas parlé du vrai fléau à l'origine de ce fléau, qui s'appelle Anne Hidalgo.
Ce personnage
incompétent et doctrinaire qui a fait de Paris une ville où le salaud d'automobiliste doit être évacué et pouvoir total au vélo. Et bien, dans la trottinette, il faut voir comment il se comporte. Et bien, la trottinette, c'est à eux, c'est la voie, on garde l'automobiliste. C'est tragique ce qui est en train de se passer. Mais qui a lancé cette mode de la trottinette? Mais bien sûr que si, elle a fait de la ville. Mais bien sûr que si. Mais elle est, de toutes les manières, dès que c'est con, c'est elle.
Voilà. Non, mais arrêtez. Voilà.
Et maintenant, ça tue. Vous rendez compte, trois morts.
Enfin, là, c'était à Lyon. Trois
morts en trottinette. Un truc qui n'existait pas. Il n'y avait pas de mort en trottinette autrefois. Et là, on a généralisé la trottinette. Non, mais la trottinette, c'est-à-dire, c'est l'abêtissement. Attendez, je circule dans Paris très souvent en permanence. J'ai des amis, des gens de ma famille qui sont là. Les témoignages que j'ai à la fin de la journée sur le comportement des trottineurs, mais c'est une honte, c'est un scandale. Mais alors, interdire les mineurs, bien sûr qu'il faut interdire aux mineurs ils sont plus élevés, ils sont plus éduqués. Ils se comportent dans la rue comme ils se comportent chez eux. Ils savent plus lire, ils savent plus écrire, ils savent pas conduire. Qu'est-ce que je vous dise?
C'était mieux avant.
C'était infiniment mieux avant. En tout cas, avant Paris, dans la trottinette, les voies. Mais attendez, on est là, il reste des petites voies. La rue Lafayette, enfin. C'est monstrueux, on devient fou. Et là, vous êtes en train de disserter, oh oui, il faut pas punir, machin. Mais il faut interdire immédiatement. Mais la trottinette en totalité, d'ailleurs. Voilà. La trottinette est devenue un instrument de désordre, de mort, de fracture sociale, de haine, de détestation. Il faut voir comment les chauffeurs de bus et les taxis voient les trottinettes qui sont là, qui se mettent devant, qui vous bloquent la circulation. C'est une cause de révolution. Voilà, tout simplement.
Ah oui, quand même. Ouais. Alors là, ça va loin. Rémi, ce que tu voulais dire, parce que c'est intéressant aussi, c'est que c'est pas que Paris. Hein,
évidemment. Alors, on pense à toutes les grandes villes où il y a des trottinettes, notamment en libre-service. C'est Lyon, c'est Lille, c'est partout. Mais moi, il y a un autre phénomène sur lequel je voudrais attirer l'attention. D'ailleurs, si vous êtes témoin également, vous pouvez nous appeler au 3216. Moi, le matin, je prends ma voiture pour aller jusqu'à la gare. Oui. Je la prends tôt, il est 5h du matin, c'est une route de campagne, etc. Donc, je traverse des petites villes, des villes moyennes, ou voire des villages. Et de plus en plus, je pense que c'est lié, alors j'en sais rien, c'est l'impression, à l'inflation et à la hausse des prix des carburants. Moi, je vois de plus en plus, à 5h, 5h30 du matin ou 6h, des gens qui partent au travail.
Au boulot.
Et qui partent en trottinette électrique.
Oui.
Et qui roulent, qui roulent sur des routes, des routes de campagne.
Et au milieu.
Et ça, c'est un autre phénomène. Il fait nuit. Moi, c'est l'hiver, il pleut. Oui. Et c'est vrai que parfois, moi, j'ai des angoisses parce qu'on les voit pas de loin. Ouais. Et on se dit qu'on roule à 50 en agglomération. Non, mais en pleine nuit, il n'y a personne. Oui. Et c'est vrai que ça fait peur. Quand on est automobiliste, ça fait peur.
On est avec Alexandre qui nous appelle de Crépy en Valois, dans l'Oise. Bonjour, Alexandre.
Bonjour.
Et vous utilisez ces trottinettes en libre-service, Alexandre. Enfin, en même temps, vous n'êtes pas mineur.
Non, je suis pas mineur, mais j'aurais pu les utiliser si j'étais mineur, par exemple.
D'accord. Vous avez déjà eu un accident, Alexandre ?
Jamais.
Vous respectez le code de la route ?
Absolument, c'est ça le problème en fait. C'est que je pense que le problème, il est pas, c'est pas une question d'être majeur ou mineur. C'est comme vous disiez tout à l'heure par rapport au vélo. C'est une question de sensibilisation à la sécurité routière et l'apprendre dans les collèges, dans les lycées, comme c'était fait auparavant, notamment avec la SSR 1, la SSR 2. Et...
Ils le font hein, ça dans les collèges, hein, les gamins.
Ouais, mais est-ce que du coup, est-ce que c'est fait par rapport aux trottinettes, parce que c'est non. pas exactement le même mode de fonctionnement.
Non, c'est par rapport au code de la route.
Oui, ça on est bien d'accord. Mais là, on voit l'image, par exemple, des gens en skate ou quoi que ce soit. C'est le même problème, en fait. C'est le comportement des utilisateurs.
Oui, c'est pas une question d'âge. Il a raison, Alexandre, finalement, Laurent Dandrieu, parce que on peut être extrêmement prudent et connaître le code de la route à 15 ans et être un débile mental à 35. Hein.
Oui, mais c'est vrai que quand vous êtes sur les Champs-Élysées le samedi soir notamment, vous voyez que c'est quand même plutôt des mineurs.
Vous allez sur les Champs-Élysées le samedi soir.
Ça m'arrive de traverser pour rentrer chez moi, oui. Parce que je suis pas très étonné.
Oui, du Faubourg Saint-Honoré.
Et donc, vous voyez, c'est quand même plutôt des mineurs qui font n'importe quoi, qui foutent le bazar. Après, moi, je pense aussi que là, je rejoindrai Perico, c'est qu'on envoie aussi des très mauvais signaux en disant la ville leur appartient. Et cette idée, par exemple, que les deux roues n'ont plus à s'arrêter au feu rouge, pour moi, c'est criminel. C'est-à-dire, ça leur a mis dans la tête que c'était aux autres de s'adapter à leur comportement.
Merci Alexandre en tout cas de nous avoir appelé au 3216. Notre invité sur ce débat, c'est Maître Antoine Réglet. Il est avocat spécialiste en droit routier. Bonjour Maître.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour.
Maître, est-ce que ce serait possible d'interdire tout simplement les trottinettes en libre service, de les arrêter quoi ?
Bah, au nom de quoi ? En fait, j'ai l'impression.
Au nom de la sécurité routière.
Mais la sécurité routière est quelque chose de très important, Estelle. Pour moi, ce qui est encore plus important, c'est la devise de la République qui commence par liberté.
D'accord.
Et liberté, vous allez me dire, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
Justement,
moi, je vous demande, quelle liberté on embête quand on se déplace en trottinette ?
Bah, la mienne.
La vôtre ? Alors, expliquez-moi pourquoi cela vous embête.
Bah, ça m'embête parce que, en vrai, c'est une situation de stress que je n'avais pas avant. Moi, quand je suis en voiture, vous voyez les trottinettes débouler sur la droite, sur la gauche. La plupart du temps, les mecs ont des casques, donc en fait, ils ne m'entendent même pas. Ouais. Et c'est compliqué quand franchement, vous êtes obligé de faire gaffe à chaque feu en vous disant votre feu est au vert, mais vous êtes quand même obligé de vraiment regarder, vous concentrer parce que vous dites, je ne sais pas s'il y a une trottinette ou un vélo qui va arriver alors que normalement là, le feu il est
pour responsable.
Les priorités à droite, j'en parle même pas.
On arrête
en fait,
aussi,
c'est hallucinant.
On interdit
quoi.
Aussi les scooters hein, parce que pour les automobilistes,
si
on part là, bah si, ils rentrent quand même.
Non, mais il y a le code de la route pour les scooters.
Bah, oui,
en tout cas, les 125, oui.
Pour les vélos et pour les trottinettes aussi, il y a le code de la route.
Oui, mais. Non, mais tu passes un permis de conduire quand tu as un scooter.
Oui, mais
c'est une question de formation. C'est une question de formation et de contrôle. À l'instant, Laurent le disait, on a donné l'autorisation aux cyclistes de griller le feu rouge. C'est faux.
C'est
entièrement faux. On est d'accord, c'est faux.
Ils ont le droit de passer au rouge à partir du moment où il y a un panneau en dessous du feu qui stipule très clairement. C'est un petit panneau où on voit un cycliste et qu'ils ont le droit mais encore une fois, combien de cyclistes le savent et combien le respectent?
Évidemment.
Peu importe. Quand on est en tort, c'est nous qui sommes. Quand ils sont en tort, c'est quand même l'automobiliste responsable.
Oui, voilà.
S'il se jette sous votre roue, c'est lui qui paye.
Je suis d'accord. Voilà. Alors justement, Maître Antoine Réglet, allez-y.
Toujours de beurre et bête.
Qu'est-ce qu'il fait pas ?
Voilà, je crois que en fait, la situation de stress dont vous parlez, Estelle, on la connaît tous. Ce qui nous fait peur en réalité, c'est de causer un accident alors qu'on ne serait pas responsable et finalement d'être poursuivi, d'avoir notre permis suspendu ou d'avoir des ennuis avec la justice alors que finalement on aurait eu un comportement, nous, automobilistes ou cyclistes, ou, voilà, nous, responsables, et de devoir répondre finalement du comportement de l'autre.
Mais
c'est
tout
ça qui crée une situation de stress. Maintenant, est-ce que vous, Estelle, qui êtes amoureuse de la liberté, est-ce que vous pensez sérieusement que c'est en les interdisant de conduire que ce stress sera moindre ? Non, parce qu'avant que les trottinettes existent, même si vous êtes d'une grande jeunesse, vous avez certainement été stressé auparavant par des cyclistes dans Paris ou par un piéton.
Bah, pas il y a 10 ans.
Où. Donc vous allez aller m'expliquer que si c'est la peur qui régit cette volonté d'interdiction, demain on va interdire les vélos, demain on va interdire les piétons finalement de traverser partout, parce que même quand ils traversent dans les clous, bah, ça nous emmerde. Donc finalement, on va aller jusqu'où ?
Non. C'est, oui, non, c'est pas faux, mais je ne suis pas contre toutes ces interdictions.
Non, mais l'argument tient pas la route, maître. Bien sûr. Sur le fond, vous avez raison. Sur le fond juridique et moral, bien entendu. Aujourd'hui, le comportement des gens qui sont sur la trottinette n'est pas dans un comportement civique de respect de l'institution et des règles. C'est tout. Les vélos, autrefois, ils faisaient attention, les piétons aussi. Et il y aura toujours des accidents de vélos et de cyclistes. Mais aujourd'hui, la trottinette, on est dans un autre monde, dans une autre dimension, et on s'octroie des droits de circulation et de comportement dans Paris qui ne sont pas des droits civique, c'est tout.
Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi, peut-être vous l'avez-vous dit avant que je n'arrive, octobre 2022, c'est hier, le code de la route a changé. Le législateur a pris des dispositions beaucoup plus sévères justement pour les trottinettes, avec l'obligation d'un casque, avec l'obligation d'assurance, avec l'obligation... Vous allez me dire, on peut faire tout un tas d'obligations et elles ne seront jamais respectées.
Elles ne sont pas respectées. J'ai jamais vu un mec et sur une trottinette avec un casque.
Ah non, mais ça, vraiment.
Si, un écouteur.
Avec des écouteurs.
Les écouteurs, ça oui.
Ah oui, ça c'est
les
sûr. Écouteurs.
Mais bien sûr. Et moi, je vous dis, à ces gens-là qui ne respectent pas ces règles-là, étant aussi avocat de nombreuses victimes de la route, si vous avez les écouteurs, si vous n'avez pas votre gilet jaune dans la nuit, etc., etc., et que vous êtes grièvement blessé, l'assurance qui devra vous indemniser va vous opposer toutes les fautes que vous avez commises.
D'accord.
Pour ne pas vous indemniser.
Et bien sûr.
Donc les gens qui, comme moi, sont allergiques à la répression, et qui ont une rébellion en eux depuis qu'ils sont gamins. Je les comprends, je leur dis simplement que le jour où ils seront paraplégiques et où ils devront justement être indemnisés, voilà, et que l'assurance leur dira « Mais au fait, vous aviez vos écouteurs, donc allez vous faire voir
voilà. »,
peut-être que ces gens-là, à ce moment-là, regretteront leur comportement. Et donc, au lieu d'interdire et de braquer ces gens-là par de la répression, si on leur expliquait tout ça, si on leur montrait les gens qui étaient paraplégiques parce qu'en trottinette, ils ont pris des risques, etc., est-ce que vous ne pensez pas que c'est la vraie éducation aux morts?
Si,
et les spots de prévention qu'on a depuis des années sur la sécurité routière, pourquoi on ne les axe pas aujourd'hui sur les trottinettes?
Voilà. Mais vous avez raison, surtout qu'ils sont bons ces spots en plus.
Je dis simplement que l'interdiction n'est pour moi jamais la panacée. Jamais, jamais, jamais.
Alors restez avec nous, maître, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent sur ce sujet, notamment Sofiane, qui est chauffeur de taxi à Paris. Bonjour Sofiane.
Oui, bonjour, bon, Sofiane, bonjour l'équipe.
Et Sofiane, c'est un enfer pour vous les trottinettes, non?
Bah, c'est comme je disais au standard, c'est un cauchemar de tous les jours. C'est un cauchemar du matin au soir. Parce que bon, déjà le non-respect du code de la route, beaucoup plus des trottinettes que des vélos. À deux sur les trottinettes, ça grille les feux rouges, ça fait du gros n'importe quoi sur les trottoirs, ça devient un cauchemar. Comme celui qui décédait là au boulevard des Italiens, j'étais à 50 mètres parce qu'il n'y avait aucun feu qui marchait, ils étaient tous clignotants le temps. Et dans le code de la route, dit quand un feu rouge il clignote le temps, la plaque est à droite. Donc c'était nullement la faute de la voiture. Il arrivait à pleine vitesse. En plus, c'était pas une trottinette libre-service, c'était une trottinette.
Celle qui va encore plus vite. Mais voilà. Sofiane, vous avez déjà eu des accidents en tant que chauffeur de taxi?
Moi, j'en ai eu deux. J'ai renversé une trottinette. Bon, il n'en est pas mort, Dieu merci.
Oui, parce qu'il a
un refus de priorité dans le 17e. Et une fois à Opéra, arrêté à feu rouge à 5h du matin, il y avait un vélo qui déboulait je ne sais d'où. Et ben, c'est moi qui l'ai arrêté. Ben, c'est mon pare-choc qui l'a arrêté. Bon, après, encore une fois, le problème, c'est quoi? C'est que pour faire des constats, avec qui vous voulez qu'on fasse un constat? Ça veut dire, quoi qu'il en soit, les automobilistes, on paye pour leurs conneries. Soit c'est des dégâts matériels. Après, ça peut être pire pour la personne. Bon, nous, on est dans une voiture, on est en
oui, vous, ça va, oui.
Ça va, mais après, il se passe quoi? Et le problème, c'est que, et encore autre chose, comme le disait le
maître Antoine Réglet.
Maître Antoine. Donc, ça, c'est pareil, au niveau d'assurance, c'est qu'à chaque fois, il faut faire des hauts et des mains pour prouver son innocence. Et ça, c'est pas facile. Et donc, aujourd'hui, la seule chose que moi, je dis à tous les éditeurs qui ont des voitures, équipez-vous de caméras, les dashcams. Ça peut protéger.
Ah oui, d'accord, mais enfin, on va pas aller mettre une caméra.
Vous vous rendez compte, on en est là, mais Sofiane a raison, on en est là.
Non, mais attends, tu te rends compte ou quoi?
Mais sinon, on paye le trottineur abruti, alcoolique, suicidaire, drogué qui se jette sous vos roues. Mais c'est vous qui payez. Mais c'est vous qui payez.
On ne pense pas toutes les deux secondes.
La bagnole est rayée, c'est vous qui payez, ça, on n'en parle même pas, c'est dingue. Et s'il y a un accident grave, c'est vous qui êtes coupable. Mais enfin, dans quel monde on vit?
Merci, Sofiane, d'avoir été avec nous. Maître Antoine Réglet, je demandais ça au début de l'émission, mais est-ce qu'il faut créer une police spéciale mobilité douce? Parce qu'on dit qu'il y a la police municipale, mais enfin elle ne fait rien là-dessus, donc est-ce qu'il faut créer une police spéciale?
vous pensez vraiment que de créer une police spéciale, ça va arranger les choses? On avait créé sous Lionel Jospin, alors ça pour le coup,
je rappelle tout le monde
à sa première jeunesse. Non, non, la police de proximité. La police de proximité.
Ah oui, c'est vrai.
Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être bien une police de la mobilité douce.
Ouais.
Bon, déjà, vous savez, dans la même phrase, police et douce, moi, ça me fait doucement rien pour le coup. Non, je crois franchement que les policiers ont vraiment autre chose à faire. Les policiers ne sont pas là pour dire si on est incivil ou pas ou civil. Je crois qu'il y a énormément de victimes de la route. Pardon, trottinette, 50 morts l'an dernier, c'est 50 de trop. Sur les 3000, d'accord, il faut relativiser. Mmh. Parce que si on commence aujourd'hui à dire il faut une police pour régenter les comportements de trottinette,
mmh. On a un tour sur 3000.
Mais attendez, maître Antoine Riglet, non mais quand moi, excusez-moi, je roule à 51 au lieu de 50, je me chope une amende. Oui. Quand en revanche, il y a un mec qui va être sur une trottinette, donc à deux sur la trottinette, avec un casque, ça se trouve en état d'ébriété, il va griller des feux rouges, lui il aura rien. Eh ben excusez-moi, je ne trouve pas ça normal.
Il aura rien.
Mais parce que personne.
Parce que ça ne sera pas constaté.
Il y a pas assez de police, tandis que moi j'ai des radars par exemple qui vérifient ma vitesse. J'ai plein de choses. Les trottinettes, il y a rien pour vérifier.
Bon alors. Moi, je vous opposerais que la trottinette, à part se tuer soi-même, ça ne devrait pas normalement tuer grand monde, encore qu'on peut discuter des piétons.
Oui, mais lorsque ça me peut pourrir ma vie pour moi en tant qu'automobiliste.
Ça tue parfois des piétons qui n'ont rien demandé à personne.
Oui, je viens de le dire. Quand vous êtes au volant d'une voiture, pardon de vous dire que le risque que vous tuez quelqu'un est plus grand. Oui. Donc que l'on. Mais pardon, je défends des automobilistes à longueur de journée, donc vous ne me prendrez pas là-dessus.
Mais ils ont des sanctions, maître. Les automobilistes, ils sont châtiés.
Je vous dise que c'est normal, entre guillemets, qu'on soit plus dur avec ceux qui peuvent plus facilement tuer que les autres.
Oui.
Comprenez-moi que le principe de proportionnalité.
Je suis d'accord. Dans 73% des cas, des accidents impliquant des utilisateurs de trottinettes, ce sont les utilisateurs de trottinettes qui sont responsables. Hein.
Maître,
ça coûte très cher à la société.
Ah bon?
Ah oui, évidemment que pourquoi ça coûte très cher à la société. Bah, s'ils sont assurés que les assurances remboursent, moi je suis forcément, ça va se reporter sur moi. S'ils ne sont pas assurés, vous savez très bien que c'est le fonds de compensation qui va les rembourser. Les frais d'hôpitaux, etc. Enfin, ça coûte très cher à la société, je suis désolé.
Pardonnez-moi, mais depuis quand les cotisations d'assurance ont un lien avec nos impôts?
Ah bah, s'il y a une multiplication d'accidents d'assurance,
moi forcément
les assurances augmentent pour tout le monde.
Et les frais d'hospitalisation.
Eh oui.
Mais maître, est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée? Il y a beaucoup de caméras dans Paris. Les accidents peuvent être constatés par des agents administratifs qui déterminent la responsabilité. Est-ce que vous seriez d'accord, sans interdire la trottinette, que lorsque la sanction prouve l'infraction prouve que l'utilisateur de trottinette est responsable, il y a une sanction forte, genre une amende de 5, 6, 7 000 euros?
Ça va pas.
Non, bon, non, pour dissuader. Non, non, pour dire, attention. Ou 1000 euros ou 500 euros, je ne sais pas. Non, enfin,
pas
une somme
dix. Bon, il est passé de 7000 à
60 000. Si c'est Tavares, ça a 60 millions. Si c'est
Tavares, 60
000. 7000 euros, ça ne lui fait pas peur. Hein.
Non.
Sanction financière assez sérieuse, contraignante, pour, j'allais dire, faire prendre conscience à l'utilisateur de trottinette. On dit, est-ce qu'on peut dire un trottinette d'ailleurs? Voilà, c'est plus facile. Qui s'impose une rigueur. Comme un automobiliste ou quelqu'un qui est sur un deux roues motorisé, il y a des règles, il y a des normes, il faut s'y tenir, et si vous y tenez pas, vous n'êtes plus dans l'impunité, vous risquez une sanction. Ça me semblerait, sans atteinte de la liberté, d'aller dans le sens un petit peu de la prise de conscience. Je sais pas ce que vous en pensez.
Créer plus d'amendes.
Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, parce que moi, le corollaire de la liberté, c'est aussi la répression, mais ce n'est pas l'interdiction. Vous voyez?
Non, s'il y a des droits, il y a des devoirs. Et s'il y a des devoirs, il y a des droits.
Exactement. Donc, la répression, bien évidemment, elle existe déjà pas suffisamment. La nouvelle loi, effectivement, donne des peines d'amende, elles sont pas suffisantes, mais ils peuvent aussi, ces gens-là, répondre de peines d'amende, elles sont pas suffisantes. Pour répondre à la question sur la vidéo-verbalisation, maintenant qu'il y a des plaques d'immatriculation, oui, on pourrait éventuellement remonter à ces gens-là, etc., même si c'est compliqué. Donc, si vous me demandez si la liberté que j'invoque a comme corollaire l'absence de sanctions, la réponse est non. Non. Il faut des sanctions, justement, pour responsabiliser ceux qui ne sont pas responsables et qui sont
complètement
irresponsables. Après, quelles sanctions? Ça, je suis pas homme politique et Dieu m'en préserve.
Eh ben, c'est dommage.
On ira faire un tour.
Merci beaucoup, maître Antoine Réglé, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce débat sur les trottinettes. Alors, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Doit-on bannir totalement les trottinettes, Rémi?
Comme vient de le dire Perico à l'instant, si on écoutait ceux qui se prononcent sur nos réseaux sociaux, ça serait vite réglé, puisque c'est oui à 71%.
Ah. Voilà, ça y est, c'est fait. Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC, on se demandera si le Black Friday est un rempart contre l'inflation. C'est aujourd'hui, Perico? C'est génial. Faut-il supprimer les droits de succession? Et puis, notre école est-elle à la dérive? Sachez quand même que 20% des collégiens aujourd'hui en France sont en très grande difficulté à l'entrée en 6e. Oh, un collégien sur 5. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière de la semaine dans Estelle Midi. Alors, profitez-en bien avec Rémi Barré, Perico Légas, Pierre-Édouard Magnan et Laurent Dandrieux. Il est 13h32, c'est l'heure du zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le meilleur des RMC ces dernières 24 heures. Et on va démarrer avec Apolline Matin ce matin. Le Black Friday, c'est aujourd'hui. Est-il un rempart contre l'inflation? C'est aujourd'hui la journée phare de cette opération de promotion chez la quasi-totalité des commerçants. Chaque année, les Français sont de plus en plus nombreux à en profiter, mais certains résistent. À l'image de Patrick, auditeur RMC, qui témoigne ce matin.
Vous y croyez, vous, au Black Friday?
Non, j'y crois pas du tout. Non.
C'est comme les citrouilles qui se transforment en carrosse.
Et voilà, exactement. Ouais.
D'accord. Non, mais
parce que en fait, j'ai adopté un petit peu le principe de sobriété, mine de rien. Ça fait quelques années déjà, et je consomme ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Je vais pas chercher midi à 14h, essayer d'avoir une télé un petit peu plus grande, d'essayer d'avoir un téléphone un petit peu plus puissant, d'essayer d'avoir un ordinateur. Non.
J'imagine que c'est pour des raisons à la fois économiques, mais aussi c'est devenu presque une philosophie de vie.
Non, oui. Je gagne assez bien ma vie, donc j'ai pas de problème économique, mais c'est plus une philosophie de vie, en effet, ouais. Je pense que, voilà, quoi, il faut
la sobriété.
Eh bien, sachez que je suis comme Patrick. C'est la première fois que je n'achète rien au Black Friday cette année, Perico.
Ça me rassure, ma chère Estelle.
Mais moi aussi.
J'étais inquiet l'an dernier parce que vous êtes très frais.
Ah si, j'ai acheté un truc, mais qui n'était pas soldé.
Non, mais est-ce que.
Alors, ça, c'est la loose.
Oui, ça va, c'est con.
Est-ce que le snobisme va se pousser à son maximum?
Ben non, mais je croyais que c'était soldé, ça ne l'était pas. Donc, du coup, j'ai rien acheté. Bon.
Est-ce qu'on conviendra que cette opération satanique n'a qu'un seul but, c'est de faire rentrer du fric dans les caisses de serpents. C'est tout.
Bah, du tout, c'est pour en faire gagner.
Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'elle tombait pas dans le panneau? Je vous en supplie.
Mais si votre perso, elle est à 100 euros et qu'elle est à 50.
Mais pourquoi le Friday? Toute l'année, il y a matière à trouver une solution pour remplacer un produit. Là, c'est une incitation. C'est une incitation. C'est un conditionnement à la consommation, acheter.
Mais des gens se sont privés pendant 2 mois parce qu'ils savaient qu'il y avait Black Friday. Ils ont attendu cette opération promotionnelle. C'est comme les soldes.
C'est la pire version du consumérisme financier.
Non, c'est les soldes.
C'est inhumain. Le Black Friday, c'est la négation de l'humanité. Voilà. Et ça fait appel aux instincts les plus bas du consommateur, avili par un marché qui conditionne.
Mais il cherche le bon prix.
Mais c'est horrible, ça devrait être interdit. Les auteurs devraient être poursuivis en justice. C'est asocial, c'est immoral. C'est anti-républicain et anti-démocratique.
Voilà. Et enfin, Perico, vous avez, par exemple, certains de nos auditeurs qui se disent, par exemple, j'ai besoin d'une télé. Cette télé, d'habitude, elle vaut 600 euros. C'est très cher, je n'ai pas les moyens de me la payer. Mais si vous savez que dans un mois au Black Friday, elle vaudra plus 600 euros, mais 300 euros. Est-ce que c'est mal d'attendre le Black Friday pour gagner 300 euros? Bah, ça, je ne crois pas.
Mais ça s'appelle la période des soldes. Alors, on peut l'amplifier, l'aménager.
Mais ça en fait une de plus.
Mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour écouler des stocks de producteurs qui ont besoin de faire du fric.
Comme les soldes, voilà, pareil.
C'est comme les foires au vin. C'est un attrape-couillon sans nom.
Bah non, c'est vachement bien.
Au début, c'était des déstockages de grands négociants. Et comme ça a marché, et comme les moutons de Panurge viennent par troupeaux entiers se vautrer là-dedans, et vas-y, je te fais des foires au vin. Il y en a plus d'avantages que nos années. Et là, le Friday, c'est pour le troupeau de moutons qui est là, bellement, et on va acheter le maréchal.
Je pense que Perico s'est reconverti dans l'élevage de chevaux parce qu'il passe son temps à monter sur ses grands chevaux aujourd'hui, oui, c'est impressionnant. Mais après, sur le fond, je suis assez d'accord.
C'est la société.
Vous n'avez rien acheté, Laurent?
Non, moi, j'ai rien acheté. En fait, pour ce que ça marche, il faudrait que les gens prennent fassent l'effort d'aller voir la veille le prix. Pour comparer avec le prix
marché, parce
que je pense que c'est une minorité de gens qui font ça, que beaucoup se font arnaquer par des affichages bidons en disant ouais on a baissé alors qu'en fait on n'a rien baissé du tout. Et ensuite il y a aussi, je pense aussi, beaucoup de consommation d'impulsion. On dit ah ouais, là il y a moins 40% là-dessus, c'est génial, j'achète. On réfléchit après pour savoir si on a besoin.
Comme les soldes.
C'est pour ça que moi j'évite d'aller faire des courses le jour des soldes parce que je sais que je vais acheter des trucs à la con dont j'ai pas vraiment besoin.
Pierre-Edouard, vous avez acheté un truc?
Ben non, c'est en fait moi je rêverais d'un Black Friday plutôt tourné whisky, livres ou cigares et
les livres sont soldés aussi Black Friday.
Oui, mais culturel. Les trouver pareil sur les sites internet, à chaque fois qu'il y a des soldes, c'est rarement ce que je cherche. Après oui, quand j'entends Perico, j'ai d'un seul coup des fois envie d'être pour alors qu'en fait je vais pas y arriver, donc ce serait vraiment du blé pur, ce serait vraiment
Black Friday sur la viande normande.
Mais
Black Friday côte de bœuf, côte de bœuf normande.
L'exemple qu'on va toujours trouver de dire quelqu'un qui a attendu et qui a acheté deux fois moins cher ce dont il avait besoin. Si on s'arrête là, c'est toujours bien. Sauf que là où je rejoins ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est évidemment une incitation à la surconsommation. Vous qui étiez jusqu'en 2021 une cliente émérite du Black Friday,
vous étiez soumise au Black Friday.
Je revendique. J'ai dit émérite. N'avez-vous acheté que par en vous disant, oh, je l'aurais payé plus cher il y a un mois, je fais une belle économie? Ou avez-vous acheté des trucs en disant, oh bah tiens, ça c'est pas mal, ça s'appelait. Alors après, l'achat d'impulsion n'est pas nécessairement mauvais. On a le droit d'acheter des trucs parce que juste on a envie, ou quand on est collectionneur, on n'achète pas que des choses qu'on a besoin. Le plaisir est un droit, je veux dire, c'est pas non plus scandaleux. Mais là, on pousse quand même à la consommation, Et en moment de sobriété qui devrait être heureuse, c'est pas forcément particulièrement positif. Et en plus, on incite aussi des gens qui ont peu à dépenser encore plus parce que s'ils achètent quatre trucs qui valent deux fois moins cher, in fine, ils ont dépensé plus d'argent à la fin qu'au début.
C'est vrai, vous avez raison, l'année dernière j'ai acheté une yaourtière à moins 70% et c'est vrai que...
C'est un piège à pauvre.
Je ne vous cache pas que...
Elle est neuve.
J'ai essayé de faire des yaourts, ça a été une catastrophe, donc elle n'a servi qu'une fois. Donc au final, je ne vous cache pas que ça m'a coûté plus cher, enfin ça m'a coûté cher.
Finalement. C'est un piège
même à moins 70.
C'est un piège à pauvre.
C'est pour ça que cette année je n'ai rien acheté.
Voilà. C'est un piège à pauvre. C'est un piège à pauvre.
Et dans la cave, il y a une yaourtière neuve.
Et qui a servi une fois. Apolline Matin ce matin, ça va vous plaire. Tiens, notre école est-elle à la dérive? L'éducation nationale dévoile aujourd'hui que 20% des collégiens sont en très grande difficulté à l'entrée en 6e et le corps professoral se sent bien impuissant selon Benjamin Grandonneur. Il est directeur d'établissement à Lyon.
Les enfants n'ont pas droit à toutes les heures d'école auxquelles ils ont droit parce qu'on manque de remplaçants. On avait des dispositifs d'aide aux élèves les plus en difficulté qui sont fortement abîmés. Donc on est tout le temps en train de choisir les élèves qui vont être aidés et ceux qui vont pas pouvoir l'être.
C'est dramatique, Perico, ce qui arrive à notre école.
C'est dramatique pour le pays, pour la société. L'école, c'est le fondement de notre société, de l'État, de la nation. Voilà. Et si la France a été une grande puissance à tous les points de vue, et un pays généreux, humain et performant, c'est parce que l'école de la République, et personne ne me démentira ici, a produit les gens formidables et les citoyens formidables que l'on a été, que nous sommes peut-être nous. Et là, cette machine essentielle et exemplaire dans l'histoire du monde, voilà, tout d'un coup est en panne. Il n'y a pas qu'elle, vous allez me dire, aussi les hôpitaux qui étaient aussi... Mais en tout cas, que l'école fabrique, je prends toujours le titre de Jean-Paul Brigelli, la fabrique du crétin, et que ce pourcentage qui était de 2, 3, 4, soit à 20%, 20% qui savent pas lire, et je les côtoie, je les rencontre, y compris dans les amis, voilà, dans des milieux assez proches, je vois l'analphabétisme, l'ignorance, l'inculture, dans des classes, c'est-à-dire que la caricature, c'est quoi? Le bac l'inculture, aujourd'hui, c'est le niveau. Le bac aujourd'hui, quasiment au niveau du certificat d'études il y a 30 ans. C'est quand même terrifiant. Et ces gens-là seront demain, ces pauvres gamins et pauvres gamines, ils seront aux commandes de la société, ils seront responsables, ils seront acteurs, c'est
dans des 20%.
Mais si, parce qu'il y aura qu'eux.
Il restait 80 autres.
Ils seront forcément un poste. Ou alors chômeurs déclarés.
Après, il y a des enfants qui sont pas très bons à l'école et qui peuvent faire d'autres métiers.
En fait, la société s'adapte. Toute la société s'abaisse pour être au niveau. Et aujourd'hui, on corrige pas les fautes. Vous avez des gens de 30, 35 qui vous envoient des mots, des notes. C'est pas en français, c'est pas écrit. Et qu'est-ce que vous dit la société? On ferme les yeux, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu comprennes ce qu'ils veulent dire. Voilà, on en est. Et il y a les erreurs de calcul et les erreurs de...
Et est-ce qu'effectivement, on ferme trop les yeux? C'est vrai que, on reçoit tous même des CV, des lettres de motivation. Je reçois des lettres de motivation qui sont truffées de fautes d'orthographe. Alors après, on peut faire des fautes d'orthographe. Moi, ça arrive, mais normalement, tu la fais relire, une lettre de motivation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un peu, il y a quand même du laisser-aller, quoi.
Sur la pratique de l'orthographe, je suis régulièrement un peu sûr d'employeur. Et effectivement, j'ai envie de dire, notamment dans les lettres de motivation et même dans les CV, on finit par le mettre un peu de côté parce que des fois, sinon, on recevrait personne.
Je parle pas des tweets.
Pour moi, il y a deux. Et alors, l'écriture texto, là, c'est terrible. Mais et pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement un manque. Je ne pense pas que intrinsèquement, si vous me pardonnez ce mot, les professeurs ou les jeunes soient devenus plus bêtes ou moins bons depuis 20 ans.
Non.
Il y a d'une part un manque de moyens, y compris de moyens humains et de moyens de temps. Il y a aussi un vrai problème, c'est la capacité de l'école à s'adapter à l'ensemble de ses élèves. Alors, ça ne veut pas dire que dans une classe de 30, il faut 30 enseignants pour s'adapter à chacun des élèves. Mais moi, par exemple, ma fille est à l'école laïque classique, ça se passe plutôt bien, elle apprend, etc. Et j'ai pas encore, je la vois dans son école, c'est une école de normale. Alors, on n'est ni dans un quartier difficile, ni à Neuilly-sur-Seine. Ça va effectivement plutôt bien. Après, on voit bien aujourd'hui que on a une situation avec des enfants avec un certain nombre de difficultés. Il y a aussi les problématiques de ce qui se passe à la maison, évidemment, des enfants qui n'ont, où il n'y a pas un livre chez eux, où il n'y a pas un seul accès à la lecture chez eux, de ceux qui l'ont. Là aussi, on voit des différences. Donc, ça, et là, pour le coup, c'est pas la faute de l'école, sauf que il faudrait qu'elle soit en capacité, non pas de gérer l'absence ou la présence de lits, mais d'en gérer un peu les conséquences. Donc, il y a aussi une capacité, y compris aussi en termes pédagogiques, comment on s'adapte et comment on fait effectivement monter tous les élèves
les
dans le
programme.
Parce qu'en demeurant, ne pas être totalement bon à l'école n'implique pas nécessairement de ne pas réussir dans sa vie, de ne pas avoir un bon métier, de ne pas avoir sa place dans la société.
Les programmes.
Bon à l'école. Je dis ça, moi j'ai jamais eu de problème à l'école, j'ai un bac plus 5, donc je veux dire, je suis un bon produit de l'école scolaire, je me suis très bien habitué à l'école université, donc moi j'ai pas eu de problème. Mais c'est pas le cas de tout le monde.
Exactement.
Beaucoup d'enfants sont rétifs, que ce soit pour des raisons pathologiques, des raisons thérapeutiques, des raisons sociales.
Les programmes scolaires. Les programmes scolaires, ceux qui se sont effondrés. Les pédagogues ont mis en place des programmes scolaires qui sont des machines à abêtir la jeunesse. Enfin, c'est effrayant. On déculturise, que ce soit l'histoire, tout, les maths, tout est détruit, tout est décomposé pour s'aligner sur le paramètre le plus bas.
Mais le français.
Et c'est une
doctrine
à l'ééducation nationale.
Mais moi, je me suis arraché les cheveux devant je sais, mon fils devait être en quoi? En quatrième. Mais à un moment, j'ai dit, c'est quoi? Mais t'auras zéro et je m'en fous. Je comprenais rien. C'était sur les prépositions, des trucs que nous, on n'avait même pas appris.
Bien sûr.
Mais il y avait genre 10 prépositions différentes entre, mais je vous jure, il fallait avoir fait l'ENA.
Ouais.
Et surtout, tu te dis, mais à quoi ça va leur servir, en fait? Est-ce qu'il ferait pas mieux d'apprendre des textes?
La grammaire. La grammaire.
Mais sans avoir les, enfin, je veux dire, des trucs qui ne leur serviront jamais, en fait, tout
oui,
est...
Oui, oui, enfin, alors après, le problème de la grammaire, c'est que le prof de la grammaire, c'est que c'est une règle. Alors,
d'accord,
ça peut évoluer,
non,
mais
et
ça s'apprend, j'irais, c'est une règle, c'est comme en informatique.
Et mais
il y a un plus 1, ça fait 2, parce qu'on a décidé.
Mais un peu plus sur l'orthographe.
Sauf qu'il y a des méthodes.
C'est pas à nous à le décider. Ce n'est pas à nous à le décider.
Je suis d'accord. La grammaire, il y a un moment, ça s'apprend.
On se plaint que les élèves ne sachent pas lire de plus en plus tard, mais on continue à enseigner avec des méthodes qui, pour beaucoup, sont influencées par la méthode globale, qui a fait l'épreuve de son caractère désastreux.
Et donc,
je suis désolé, des méthodes dérivées d'eux, des méthodes imprégnées d'eux. Voilà. Aujourd'hui, c'est encore considéré comme ringard d'enseigner la lecture, comme on l'enseignait quand moi j'étais petit, qui est pourtant des méthodes qu'on fait leur preuve. Après, il ne faut pas oublier non plus, dans cette difficulté de l'apprentissage du français, excusez-moi, si je ne dis pas ça dans un esprit polémique, mais il y a le poids de l'immigration. C'est-à-dire, quand vous avez des classes où il y a beaucoup d'enfants d'origines diverses dont les parents ne parlent pas français à la maison.
C'est de plus en plus rare.
Non, c'est pas de plus en plus rare, au contraire, Estelle, c'est de plus en plus fréquent.
Non, mais enfin, je veux dire, avant, vous aviez dans cette génération, effectivement, qui était arrivée en France sans savoir parler français.
Enfin, ils étaient disséminés sur le territoire. Là, le fait qu'on les ghettoise, ils sont majoritaires.
Vous savez que l'immigration continue, qu'elle n'est pas arrêtée.
Oui, non,
il y a 200 000 personnes qui arrivent tous les ans. Au minimum, légalement, rien que légalement. Donc non, il y a des, excusez-moi, mais les classes où il n'y a pas, l'apprentissage de la langue devient difficile parce qu'il y a trop de nationalités. D'accord. Qu'on n'arrive pas à gérer. Je suis désolé, c'est quelque chose de plus en plus présent.
Dans un instant, le journal décalé de Paul Lassen qui a fait pour nous le tour de la presse quotidienne régionale. Ce sera juste après cette petite pause dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC, RMC Story, et c'est le moment d'accueillir Paul Lassen, le journal décalé, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le journal décalé.
Bonjour Paul.
Bonjour Estelle. Je commence du coup,
oui, bah,
vu qu'il me reste déjà plus beaucoup de temps.
Oui,
je voulais commencer par une bonne nouvelle, en tout cas. Pour les gens qui sont un peu ternes au bureau, cette information publiée dans la presse régionale relaie une décision rendue par la Cour de cassation. Et dans cet arrêt, écoutez bien, on apprend que ne pas être fun ou ne pas être marrant n'est pas un motif valable de licenciement. Alors non, la Cour n'a pas statué sur les vannes pourries qu'on peut tous s'envoyer au bureau, hein, Estelle. Mais par exemple, si votre entreprise... Prenons l'exemple d'RMC au hasard. Si RMC organise une fête, Estelle, et que vous décidez de ne pas vous y rendre...
Eh
bien c'est
bon
fini,
genre.
En tout cas officiellement fini. Vous n'aurez plus à vous forcer d'aller côtoyer vos collègues lors d'événements d'entreprise. Tout part d'une affaire, un salarié est licencié en 2015 pour insuffisance professionnelle parce qu'il n'était pas bon esprit quand il y avait des fêtes ou des soirées. Et du coup la Cour de cassation a tranché, vous avez le droit d'être chiant au bureau.
Ah,
et on
ne
peut pas vous virer pour ça.
Ça doit vous arranger, non?
On en discutera après l'émission. Maintenant, j'ai décidé de vous faire rêver un peu. Et la Voix du Nord nous emmène à Oudin, dans le Nord.
Ça fait rêver
Oudin.
Attendez, c'est pas fini. Au rive droite, rive gauche plus exactement, qui est le bar tabac de la ville, tabac dans lequel s'est levé effervescence depuis lundi. Non, le paquet de cigarettes n'est pas moins cher qu'en Belgique. Si tous les habitants s'y pressent, c'est parce que c'est ici qu'un chanceux a validé un ticket d'euros-millions à 160 millions. Une question.
On le voit différemment, Carlos Tavares.
Ah ben voilà, on est pas loin des grands patrons. Et une question revient sans cesse. Hein. Dès que la porte s'ouvre, c'est est-ce que c'est toi qui as gagné?
Comme si le mec allait dire ouais.
Oui, c'est ça. À part les comiques, personne n'a fait ça. Et Isabelle, qui gère le bar tabac, explique qu'elle a cependant une petite idée sur le profil du gagnant. Écoutez.
Je pense qu'il a validé son bulletin ici le 5 novembre. Mmh. Il y en a qui viennent par curiosité aussi voir qui a gagné. Mmh. Donc, on ne sait pas. Donc, voilà.
Oui, ouais. Celui qui a gagné, c'est celui qui est allé avant au bar tabac en Clio, c'est maintenant il va en Ferrari.
Oui, celui qui vient plus.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, a priori.
Et qui a donné sa maison.
À Carlos Tavares, qui gagne trois fois moins que lui.
Alors, Isabelle, elle le dit, elle accueille beaucoup de curieux depuis une semaine. Quant aux habitués, ils se disent heureux, mais quand on les écoute, il y a quand même une petite pointe d'amertume quand même.
Ça fait rêver tout le monde, hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Ça fait chaud au cœur quand même de savoir que ça t'est validé ici.
Et enfin, la Française des Jeux a recueilli le témoignage des heureux gagnants qui réfléchissent à leur premier voyage. Vous savez comment ils se décideront?
Non.
En faisant tourner un globe, comme dans la vieille pub.
C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
C'est génial. Merci beaucoup, Paul
Lassen.
C'était un mini journal décalé parce qu'on était très en retard, mais je vous promets, on se rattrapera la semaine prochaine.
Mais je suis pas payé, je m'en fous de toute façon.
Ah bon, d'accord. La Coupe du Monde, le foot évidemment, et le match Qatar-Sénégal, c'est le match de 14h. On va retrouver Pierre Dorion. Salut Pierre.
Salut Estelle. Qatar, Sénégal, égal exactement. Le Qatar, pays organisateur, et le Sénégal ont perdu leur premier match. Donc, grosse pression sur cette rencontre. Et puis, beaucoup de débats sur l'équipe de France, notamment, qui joue son deuxième match contre le Danemark demain. C'est peut-être le match le plus important de ce premier tour. Retour aussi sur la blessure de Neymar, avec un débat sur le Brésil. Et puis, bien sûr, on vous attend au 32-16 pour parler avec la Dream Team.
Eh ben super, on vous retrouve bien sûr sur RMC, l'intégrale foot avec Pierre Dorion et toutes ses équipes. Nous, Estelle Midi, on continue sur RMC Story avec ce chiffre. Hein. 25% des Français seraient prêts à manger de la pizza à Noël. Mais est-ce que c'est un sacrilège ou au contraire un symbole de modernité? On attend toutes vos réactions au 32-16 ou sur l'application RMC. On se retrouve dans un instant sur RMC Story. À tout de suite.
RMC, Estelle Midi.